attendre mes collègues de travail, ma famille, mes amis. Plus vite ils seront informés, plus vite ils pourront s'isoler eux-mêmes et éviter d'infecter d'autres personnes. Oui, en identifiant les personnes à risque, j'aide à ralentir la propagation de l'épidémie.
Tester, alerter, protéger. Le bon choix, c'est de faire les trois. Ensemble, continuons l'effort. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France.
Vous écoutez France Culture, quelques mots des programmes à venir à 19h03. Affaires culturelles avec Arnaud Laporte ce soir en compagnie de l'artiste plasticien Philippe Parrainaud. Dans Affaires en cours à 19h20, Marie Sorbier échangera avec l'historien Patrick Boucheron qui nous racontera comment penser l'histoire grâce aux boules à neige. Et à 19h50, c'est le musicien Chili Gonzalez qui nous livrera ses conseils culturels. Dans 20 minutes, le temps du débat. Avec ces audiences exceptionnelles de cette année 2020, la télévision est-elle redevenue un refuge? Que faire de ses succès? Quels enseignements? Quelles responsabilités? C'est dans 20 minutes donc, puisqu'il est 18h. Voici le journal. Journal qui vous est présenté par Isabelle Souquet. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir. Embouteillage monstre à Douvres, français de retour de vacances et routiers européens toujours bloqués malgré la réouverture de la frontière. La situation est loin d'être réglée. Pas de ciné ni de théâtre à Noël. Le Conseil d'État suit la décision du gouvernement. Au vu d'une situation sanitaire dégradée et incertaine, la déception est immense pour le monde de la culture qui avait déposé de nombreux recours pour sauver sa fin d'année. La suite du décryptage de l'interview fleuve d'Emmanuel Macron dans l'Express. Le chef de l'État en appelle au patrimoine, au patriotisme des Français. Il esquisse sa stratégie pour la fin du quinquennat, voire au-delà, et sa volonté donc de réconcilier un pays divisé. Après la mort de trois gendarmes dans le Puy-de-Dôme, témoignage d'une brigade de gendarmerie sur ses conditions de travail, de plus en plus difficiles aussi dans les territoires ruraux. Le trafic routier va pouvoir reprendre entre la France et le Royaume-Uni après deux jours de blocage. L'apparition d'une variante du Covid-19 avait fait se figer les transports. Le port de Douvres a rouvert cette nuit, mais des milliers de camions sont toujours bloqués. Il va maintenant falloir plusieurs jours pour dégager tous les véhicules. Et sur la frontière, routiers ou voyageurs, on s'impatiente entre les conditions difficiles et l'envie pour tous de parvenir à rentrer chez soi pour Noël. À Douvres, Laure Van Runbeek.
Depuis ce matin, les klaxons des camions n'arrêtent pas. Ils sont à bout.
Ça fait trois jours que je suis bloqué. Il n'y a pas de toilette, pas de douche, rien.
Martin est un chauffeur polonais. Il est ici depuis dimanche soir. Juste derrière lui, quelques instants plus tôt, un autre chauffeur s'est glissé sous un poids lourd venant de France en signe de protestation avant de se faire écarter par la police. Des camions de France sont arrivés, tandis qu'eux sont toujours bloqués.
C'est fermé, fermé, personne ne bouge.
La police, les chauffeurs, mais également les passagers de van n'en peuvent plus d'être à l'arrêt. Maria est avec son fiancé britannique dans un van de 8 personnes dans lequel ils dorment. Ils veulent rentrer en Roumanie le plus rapidement possible pour retrouver sa famille à elle.
Ma famille me manque, j'ai besoin de voir mon fils.
Selon elle, ils sont traités comme des animaux.
On n'a plus les idées claires. Sérieusement, on pourrait même dépasser les bornes, je sais pas moi, se battre, faire la révolution.
Le port est censé être ouvert depuis cette nuit, mais ici, aucun camion ni véhicule n'a bougé de la journée et personne ne sait comment se faire dépister, car les autorités n'ont pour l'instant rien mis en place.
Laure Van Runbeek à Douvres. Entre la Grande-Bretagne et la France et l'Europe, il y a le virus, il y a aussi le Brexit, mais cette fois-ci, un accord est sérieusement en vue. On entre vraiment dans la dernière phase, Angélique Boin.
Oui, alors il faut toujours rester prudent avec le Brexit, hein, mais c'est tout de même la première fois que l'on évoque ici aussi clairement l'imminence d'un accord pour cette nuit, ce soir, demain matin. On ne sait pas évidemment à cette heure-ci. Et hier soir encore, les deux camps bloquaient toujours sur la question de la pêche. Il y avait aussi des interrogations encore sur ce qui avait été négocié sur certains points précis des conditions de concurrence équitable. Mais à 8 jours de la rupture définitive, la pression montait clairement depuis 24 heures. On imagine bien aussi qu'à Londres, hein, les files de camions bloqués donnant un avant goût de ce que serait un Brexit dur sans accord a sinon fait bouger les lignes, au moins accru la pression sur les Britanniques. Il y a donc eu entre hier soir et cet après-midi de très nettes avancées. Les tractations se concentraient ces derniers jours sur le partage des quelques 650 millions d'euros de poissons pêchés chaque année par les bateaux européens dans les eaux britanniques. Michel Barnier, le négociateur européen, proposait que les Européens renoncent à environ 25% de leur prix, ce que refusait Londres, et 25%, Il faut savoir que c'est déjà un montant problématique pour les États pêcheurs. Or, si un accord était trouvé dans les prochaines heures, eh bien, rappelons qu'il doit encore être validé par les 27 États membres. Une réunion des ambassadeurs pourrait avoir lieu dès demain matin. Mais à la Commission, on pousse fort depuis plusieurs jours pour obtenir un accord avant Noël. Pas uniquement pour avoir un joli cadeau au pied du sapin, mais parce qu'un tel accord, des centaines de pages, doit être traduit dans les 23 langues officielles de l'Union, mis en forme juridiquement pour être fin prêt le 31 décembre à minuit.
Angélique Bouin à Bruxelles. Et alors que l'Angleterre annonce aujourd'hui avoir découvert sur son territoire une nouvelle variante du virus originaire d'Afrique du Sud et encore plus contagieuse que sa semblable anglaise, les premiers lots de vaccins pour l'Europe ont quitté ce matin l'usine qui les produit en Belgique. Plusieurs pays entament aujourd'hui leur campagne de vaccination, comme la Suisse ou encore Dubaï. La France est dans l'attente du feu vert final de la Haute Autorité de Santé pour demain. Et l'Europe se concerte pour définir une stratégie vraiment commune. En France, où tous les acteurs de la scène culturelle attendaient la décision du Conseil d'État après leur recours pour la réouverture des théâtres, des cinémas, des musées, des cirques, eh bien, sans surprise, c'est non, en attendant que la situation sanitaire se stabilise. Mais le Conseil laisse un peu d'espoir aux professionnels de la culture, Benoît Grossin.
Le Conseil d'État, en qualifiant d'attentatoire aux libertés la fermeture générale des lieux de spectacle, affirme qu'elle ne pourra plus désormais être justifiée, cette fermeture, par la seule persistance d'un risque de contamination. Décision jugée très importante par Nicolas Dubourg, le président du Syndéac, syndicat qui regroupe quelques 400 structures, centres dramatiques, scènes nationales, scènes conventionnées et compagnies indépendantes.
Elle dit que la culture, les musées, les cinémas, bien plus qu'une activité commerciale, sont une activité qui relève d'une liberté fondamentale, qu'on ne peut pas la mettre en suspens, on ne peut pas la mettre entre parenthèses, même si le contexte sanitaire est défavorable, on ne peut pas l'arrêter. Et cette liberté fondamentale ne peut pas s'exercer pleinement, par exemple par les substitutions qu'on a pu imaginer sur le numérique ou quoi que ce soit.
Et dans le cadre des négociations qui se poursuivent avec le gouvernement, Nicolas Dubourg propose que le secteur public du spectacle vivant commence déjà à ouvrir ses portes très vite aux enfants.
Nous, ce que nous demandons, c'est que dès la rentrée de janvier, avant même l'ouverture au tout public, que nous puissions, dans nos théâtres, réaccueillir les enfants pour des représentations scolaires, de manière à affirmer cette politique fondamentale auprès de la jeunesse, dans une situation de désespérance culturelle depuis bientôt 9 mois.
Et il souligne que la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, dans les récentes consultations, a bien dit que la date du 7 janvier ne serait pas une date de réouverture, mais de revoyure, que l'accueil du grand public serait probablement repoussé à la fin du mois de janvier, voire au-delà.
Et avec vous maintenant, Marie Viennot, nous poursuivons notre fil rouge sur la situation des entrepreneurs au terme de cette année de récession inédite. Finalement, en 2020, il n'y a pas eu de vague de défaillance d'entreprises. Elles ont même chuté de 37% par rapport à l'an dernier. Mais l'an prochain, quand les aides du gouvernement cesseront, plusieurs centaines de milliers de commerçants, d'artisans, de micro-entrepreneurs pourraient bien faire faillite. Les associations qui apportent un soutien à ceux et celles qui ont échoué dans leur entreprise craignent à ce moment-là une vague de dépression. Un numéro vert a été mis en place depuis le printemps et vous avez recueilli le témoignage de deux commerçants qui y ont déjà fait appel.
Oui, 1000 personnes ont appelé ce numéro vert depuis qu'il existe, mais peu acceptent de témoigner. Il est géré par l'APESA, une association qui assurait déjà ce soutien psychologique avant la crise sanitaire, mais uniquement pour les personnes passées devant les tribunaux de commerce. C'est là que James Caillé, boulanger en liquidation, a pu être détecté par le président du tribunal et aidé, exactement l'inverse de ce qu'il pensait.
On pense que c'est fini. Enfin, à partir de ce moment-là, c'est l'exécution finale. Et vous attendez ce rendez-vous, on le repousse. On n'arrive pas à vous joindre à cause du Covid. C'est pas leur faute, tout ça. Donc, c'était vachement compliqué. Et quand on a eu la personne, et il a eu les mots qu'il fallait. Ce qu'il m'a dit, c'est pas normal, vous êtes dans un état et nous avons beaucoup de gens. Et c'est vrai qu'on pense, malheureusement, si j'avais pas d'enfant, à ne plus être là. Donc, moi, si j'avais pas eu mon enfant, je serais plus là. Voilà. Et lui, il a dû le sentir. Parce que ça, on parle pas de ça du tout pendant la liquidation. La seule chose qui est positive, j'ai bien dit, c'est ça.
Selon une étude de la Fondation Jean Jaurès, 27% des dirigeants d'entreprise ont pensé au suicide en 2020. Avec les artisans, commerçants et les chômeurs, c'est la catégorie professionnelle la plus à risque. Le suicide, Aimé Rivière, fleuriste dans un petit village de Nouvelle-Aquitaine, avoue également y avoir pensé.
Le président a dit les petits commerces non essentiels ferment. Moi, le dimanche matin, eh ben, fermé. J'ai pas pu vendre, on savait pas que le drive pouvait exister. Nous, les petits commerces, on n'a pas été suivis du tout. J'avais plus qu'envie, c'était de de dire au revoir à mes enfants, mes petits-enfants, et au revoir à toute la planète. Moi, si vous me connaissiez, je suis une femme forte. Je me suis toujours battue et là, ça m'a... Ouh, je suis tombée, mais alors un ravin. Du jour au lendemain, il n'y a plus du tout de rentrée d'argent, quoi. Donc, les factures personnelles se sont cumulées, j'ai pas pu payer mon loyer, plus rien. J'y arrive pas, même en ce moment, j'arrive pas à remonter, hein. J'ai plus de personnes à charge. J'ai deux enfants, mais ils sont grands. Et j'ai des petits-enfants aussi. Donc, voilà, quoi. Noël arrive, je peux même pas leur faire un cadeau. C'est horrible. Là, j'ai peur du troisième confinement. J'ai peur que ça arrive en période 14 février, Saint-Valentin. J'ai ma fille qui m'aide, la pauvre. Elle est au RSA, mais bon, elle m'aide. J'ai des amis qui m'aident. J'ai le jardin, hein, donc j'ai fait du jardin. Donc, j'ai quand même les légumes dans le congélateur. Je me débrouille, je vais pas mourir de faim non plus. Mais mon problème à moi, c'est de payer les factures. Hein. Ça va s'accumuler et revenir pour tout payer, ça va être vraiment difficile.
Le gouvernement promet qu'il suivra la situation de ces micro-entreprises de près. Elles sont quasi 2 millions en France, d'où le risque de voir se constituer après cette crise une vaste classe d'entrepreneurs précaires que certains chercheurs ont nommé un entre-précariat.
C'était le fil rouge de Marie Viénot sur la difficile situation des entrepreneurs. Alors, un peu de douceur et de réconfort à présent avec ce repas de fête offert par un grand chef pour Noël, le chef étoilé Julien Diaz du restaurant Saison à Marseille. Il a décidé de préparer des repas pour les étudiants précaires. Ils seront distribués après par le Secours Populaire sur les différents campus de l'université Aix-Marseille. Au total, 250 repas ont été préparés pour permettre à ces étudiants d'avoir un vrai repas de Noël. Romane Porcron.
Depuis trois jours, le chef Julien Diaz et son équipe s'affairent en cuisine pour préparer tous ces repas.
Je pense qu'on a du temps malheureusement parce qu'on est fermé et on s'est dit que c'était la meilleure façon de pouvoir utiliser notre restaurant à bon escient. Et c'est toujours du plaisir que de pouvoir aider les gens. On est fermé, on râle beaucoup, mais on se rend compte qu'on n'est pas les plus à plaindre. On parle de survie de notre restaurant, mais eux, ils parlent de survie tout court.
Alors il a pensé à un menu spécial pour ses étudiants qui peut se déguster chaud comme froid.
On a commencé avec un velouté de courge, ensuite on a fait une volaille fermière entièrement désossé, farci, sur lequel on a rajouté une sauce suprême. On a accompagné ça d'un gratin dauphinois, parce qu'on s'est dit qu'il fallait quand même quelque chose en cette période où il fait froid de consistant. En dessert, on termine par, on voulait marquer le coup, avec comme un système de bûche, chocolat, praline, caramel. Cette population qui est aujourd'hui dans une situation précaire, je pense pas que leur priorité c'est d'aller acheter une jolie pâtisserie dans une belle boutique. Donc on a fait en sorte de leur apporter ça.
Et en effet, Stéphane, étudiant à Marseille, ne pensait pas pouvoir se faire autant plaisir pour le réveillon.
Ça me fait vraiment, vraiment plaisir, et ça tombe au bon moment en fait. J'avais pas forcément les moyens de m'offrir un repas chaud. Ça aurait été des pâtes. On s'est dit on va se prendre un bon petit repas et penser à de l'endemain meilleur.
Un repas qui remonte aussi le moral de Léa, étudiante en philosophie.
J'aurais même pas cherché à m'en faire un pour Noël en fait. C'est pas facile, même avec les aides, c'est pas facile de s'en sortir en fait. Je me suis dit cool, je vais fêter Noël quoi. Ça rappelle en fait un peu que finalement si c'est Noël et que ça se fête quand même, malgré la mauvaise année.
Des repas de Noël qui seront également distribués ce soir à des sans-abri.
Romane Porcron. Emmanuel Macron et l'exercice du pouvoir. La suite du long entretien que le chef de l'État a donné à l'hebdomadaire à l'Express. Il fait le constat d'une France qui doute, du défaitisme, d'un esprit de capitulation dans une société confrontée à des crises toujours plus violentes. Face à cela, il oppose, dit-il, une grande détermination. Pierre Neveu.
Emmanuel Macron fait un état des lieux sans concession. Le pays est frappé par le terrorisme, confronté à une société de plus en plus violente, avec des manifestations de rue qui ont vu ressurgir des mouvements d'extrême droite, d'extrême gauche et des black blocs. Ce retour à la violence est inacceptable, explique le président, qui affiche toute sa détermination. Nous devons apporter une réponse. Est-elle disproportionnée, s'interroge-t-il ? Non, et de souligner qu'il sera toujours du côté de l'ordre républicain. Dans cet entretien, Emmanuel Macron cible les forces politiques complaisantes et surtout, il critique les intellectuels qui n'ont pas su penser un avenir français durant des décennies de crise. Il fustige ceux qui aiment la liberté, qui créent la chienlit, mais ne défendent pas la liberté d'expression. La charge du chef de l'État contre les élites ne s'arrête pas là, puisqu'il cible également l'élite économique mondialisée, nomadisé, on ne l'attendait pas sur ce registre. « Je ne m'avoue pas vaincu, dit Emmanuel Macron, car dans la position où je suis, je n'en ai pas le droit, et d'afficher son ambition, réconcilier les Français dans l'action. La réconciliation ne se décrète pas. Il invoque en cela un « nous français » qui rassemble les patriotes et les Européens, un « nous français » qui claque comme un slogan de campagne.
L'accès aux données publiques a de nouveau montré son importance en ces temps de pandémie, avec les difficultés à suivre l'évolution de l'épidémie, puis aussi de la part du public, la demande de transparence des politiques mises en œuvre. Alors, comment mener une politique publique de la donnée? C'est exactement la question posée au député des Côtes-d'Armor, Éric Botorel. Il remettait aujourd'hui son rapport au Premier ministre, Catherine Pétillon.
L'objectif est bon, mais reste loin d'être atteint. Le constat dressé ici sur l'état d'ouverture des données publiques est assez sévère. Ce dont il est question, c'est de la manière dont toutes les données financées par la puissance publique peuvent être rendues accessibles à tous. Il peut s'agir par exemple de données cartographiques, météo ou de statistiques. La mission, c'est aussi intéresser aux codes sources. Par exemple, c'est ce qui permet à un simulateur de calculer les impôts qu'on doit payer. La donnée et les codes sources ne sont pas juste un enjeu tech, mais d'abord et surtout une question politique, démocratique, scientifique et économique, souligne le rapport. C'est un enjeu pour l'évaluation des politiques menées et donc la confiance dans l'action publique, mais aussi pour la connaissance et l'innovation dans l'ensemble des secteurs de l'économie. Car des entreprises peuvent alors utiliser ces données pour proposer des services. En droit, il existe depuis 2016 un principe d'ouverture par défaut des données publiques. En pratique, beaucoup d'administrations ne jouent pas le jeu, note la mission. Dans 80% des cas, l'administration ne répond même pas aux demandes. Les auteurs appellent à rendre ce droit plus effectif, notamment en renforçant les pouvoirs de la CADA. La mission détaille aussi un certain nombre de propositions techniques, juridiques, organisationnelles, de nature à faciliter un changement d'échelle. Et elle préconise que soit portée au plus haut du gouvernement une politique plus volontariste d'ouverture des données.
Catherine Pétillon. La mort de 3 gendarmes en intervention dans le Puy-de-Dôme. Un quatrième a été blessé. Il se portait au secours d'une femme qui les avait alertés pour violence conjugale. Les gendarmes étaient prévenus que l'homme était dangereux et armé. Ils étaient venus en nombre et avec un négociateur. L'homme a tenté plusieurs fois de fuir et c'est à sa quatrième tentative qu'il s'est retourné et a abattu les 3 gendarmes. Laurine Benjebria, on parle souvent des difficultés des policiers et parfois des pompiers ou des médecins en visite à domicile. Les gendarmes en région connaissent en fait les mêmes problèmes.
Oui, l'an dernier, 2300 gendarmes ont été blessés après une agression, et cela peut arriver lors de toute intervention. Le major Frédéric Delcourt commande le SPIG, le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie de Fontenay-le-Comte en Vendée. Et pour le major Delcourt, ce qui définit une intervention à risque, c'est surtout son contexte.
Concernant nos malheureux camarades hier soir, ils ont eu des conditions qui étaient quand même assez délicates, avec la nuit, le milieu isolé, la maison en flammes, l'individu qui n'est pas localisé. Toutes ces conditions-là font qu'on est sur une situation à risque.
Toutes les interventions pour violences intrafamiliales ne se soldent pas par des agressions, voire la mort de gendarmes, mais ces interventions sont très nombreuses. Une toutes les 4 minutes sur tout le territoire de la gendarmerie.
La mission première, lorsqu'on arrive sur ce genre d'intervention, déjà, c'est de séparer les deux protagonistes. Une fois que le contact n'existe plus entre les deux, la situation s'apaise très rapidement. Ça peut arriver qu'il y ait des coups de données par les mises en cause.
D'où l'importance d'être formé aux différentes techniques d'interpellation, selon le major Delcourt. Dans chaque SPIG, il y a un moniteur d'intervention professionnel pour préparer toute l'année les militaires.
Comment interpeller la personne et le menotter rapidement. La personne est en possession notamment d'un couteau ou quoi. Nous sommes porteurs de ce qu'on appelle le taser.
Et malgré ces outils, les risques demeurent, surtout que le nombre d'agressions de gendarmes avec armes a été multiplié par 2 en 10 ans, selon le directeur général de la gendarmerie nationale, auditionné cet été par la commission des lois au Sénat.
Laurine Benjebria. Direction les États-Unis à présent, où depuis des mois, démocrates et républicains travaillent à un plan de relance économique du pays. Hier, un accord a enfin été trouvé. Il prévoit notamment une aide de $600 pour chaque Américain. Un accord validé par les deux parties au Congrès et auquel il ne manquait plus que le paraphe présidentiel. Mais voilà, hier soir, Donald Trump a refusé de signer. Pour lui, verser $600 à chaque Américain, ce n'était pas assez. Il exige que chacun reçoive un sérieux coup de main sous la forme d'un chèque de $2000. Pour le président, qui met en face les millions d'aides internationales de la part des États-Unis, il faut se recentrer sur America First. Le problème, Grégory Phillips, c'est qu'une fois de plus, le président confond les lignes budgétaires et qu'en fait, il mélange tout.
Oui,
Donald Trump a surpris tout le monde hier soir en annonçant qu'il ne signerait pas pour l'instant ce nouveau plan d'aide, car plus tôt dans la journée, la Maison-Blanche et le secrétaire au Trésor Mnuchin avaient donné leur accord à ce texte négocié depuis des mois au Congrès par les républicains et les démocrates. Alors que dit Trump ? Qu'il ne peut pas valider un plan qui prévoit notamment de débloquer des dizaines de millions de dollars au titre de la coopération internationale pour le Cambodge, la Birmanie, l'Égypte ou d'autres pays. Or, le président se trompe ou fait exprès de se tromper, car ce que le Congrès a présenté hier, c'est d'un côté un projet de loi Covid à 892 milliards de dollars, de l'autre un vaste projet de loi à 1400 milliards pour financer les dépenses du gouvernement fédéral jusqu'en septembre 2021, et c'est ce plan-là qui comprend un volet d'aide internationale. Trump donc mélange les lignes budgétaires, en revanche il est cohérent sur un point, la somme qu'il veut allouer aux Américains dans le cadre du plan d'aide, 2000 dollars par personne, 4000 dollars pour un couple. Le président a toujours été, malgré l'avis de son secrétaire au Trésor, sur cette fourchette haute. La speaker démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, le prend donc au mot. Elle va déposer demain un projet de loi modifié afin que les Américains touchent ces sommes rapidement. Donald Trump aura alors jusqu'à lundi prochain pour paraffer cette nouvelle version de ce deuxième plan de soutien.
Grégory Phillips à Washington. La météo, des averses, du vent et des températures en baisse demain. La pluie s'installe sur la moitié nord du pays et le Grand Est, perturbations qui descendront vers le sud au fil de la journée. Il y aura de la neige sur les Hauts-de-France et des éclaircies près de la Méditerranée. Température minimale de 2 à 10 degrés, maximale de 7 jusqu'à 18 degrés en Méditerranée. 18